En cherchant parmi les conférences présentées à la Corfu, on s'aperçoit que les voyages des grands hommes en Italie sont souvent évoqués. Tout à l'heure, on vous parlait de Chateaubriand et puis de président Desbrosses. C'est donc un exemple, et nous, à la Corfu, on en a présenté beaucoup aussi. Mais il s'agit le plus souvent de Français, ou bien de Belges, ou bien de... Il y a eu un Belge, il y a eu un Autrichien, mais c'était Mozart. On a parlé d'Anglais également, on a même parlé d'un Américain, mais la plupart du temps c'est des Français, mais il n'y a pas d'Allemand. Et pourtant, quand on visite l'Italie, ou quand on lit des auteurs italiens, le voyageur du passé, cité par les Italiens le plus souvent, c'est l'écrivain allemand le plus célèbre, c'est Goethe, dont le voyage en Italie est surtout de les lèvres. Mais pas de Goethe à la Corfu. Je vais tenter de remédier à cette lacune, mais on me l'a demandé, je ne peux pas vous raconter son voyage sans d'abord vous présenter l'auteur. C'est difficile, hein ? Alors je vous ferai une présentation qui sera brève, mais qui va peut-être un peu allonger mon intervention. C'est pourquoi la dite intervention va faire l'objet de deux parties. De toute façon, Goethe avait publié son journal en deux tomes, ça tombe bien. Donc il y aura une deuxième partie. Quel est d'abord ce portrait de Goethe qui présente l'exposé ? Est-ce que vous le connaissiez d'abord ? Vous l'aviez déjà vu, hein ? Vous voyez, il est assez connu. Il a été fait en Italie, durant le voyage lui-même, par le peintre allemand Tischbein, qui accueille à Goethe à Rome. On y voit Goethe vêtu du tabarro, la cape vénitienne, en arrière-plan, la campagne romaine et les ruines. Alors, présentons d'abord Goethe, écrivain. Son œuvre est gigantesque, alors je n'aborderai qu'une minuscule partie. Elle aborde tous les domaines, hein. La poésie, le drame, la tragédie, le roman, l'essai, la philosophie, et même des livrets d'opéra. Les sujets qu'il a choisis sont souvent mis en musique, et on les connaît en France le plus souvent sous cette forme. Voici par exemple, alors je ne sais pas si vous reconnaissez, si ça vous dit quelque chose, eh bien c'est Faust. Et puis, dans le fond, on peut voir, ou on distingue vaguement, le diable qui se cache, bien entendu. Alors, mis en musique par Gounod, et puis ensuite par Berlioz, et ma femme me disait tout à l'heure, par un autre... Schumann, d'accord. Alors, un autre rappel musical, Mignon. Là, évidemment, vous avez le nom, vous n'avez pas deviné, c'est Ambroise Thomas qui a mis en musique Mignon. Mignon, c'est dans... Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. Il y a ensuite, ce qui a fait connaître Goethe, Werther. Là, on a la première page du livre, qui a été mis en musique par Massenet. Alors, Werther, c'est un roman épistolaire. Je vais vous dire très vite en quoi ça consiste. Le jeune Werther, qui a écrit les lettres, puisque c'est un roman épistolaire, il était pris d'une Charlotte. Une personne qui s'appelle Charlotte. Je vous parlais beaucoup de Charlotte. Elle-même engagée avec un autre homme. Ça arrive. Alors, sous la souffrance d'un amour impossible, Werther se suicide. Voilà, ça tient un peu de temps. Mais enfin, je vous reparlerai de Werther. C'est un drame épouvantable. Pour mon compte, je connaissais Goethe surtout pour ses poèmes. Il a écrit des centaines de poèmes, des poèmes d'amour, des poèmes d'Italie. Vous savez, l'oranger, là, connais-tu le pays où fleurit ? Bon, je vous affiche rien de plus, mais vous voyez de quoi je veux parler. En Allemagne, d'ailleurs, en allemand, c'était pas du tout l'oranger, ce sont les citronniers. Mais ça allait mieux pour la rime, sans doute, enfin bon. Des poèmes inspirés par la mythologie. Il était un roi de Thulé. Alors, roi de Thulé, vous connaissez aussi ça. Et ainsi de suite. Pour mon compte, j'aime beaucoup les poèmes de Goethe, et je vous engage à les lire. Alors, je vais vous présenter l'illustration maintenant de l'un de ces poèmes. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître quelque chose là-dedans. Ah ben, j'ai connu. Ah ben, c'est le roi des aulnes, évidemment. Qui marche aussi. Ça peut être Dosnart ou Vint. Bon, enfin bref, ils voient que beaucoup le connaissent. Alors, bon, pour vous donner une idée, je vais vous citer une infime partie d'autres œuvres écrites par Goethe. Il y a Goethe von Berlichingen, qui est un drame peu connu en France. Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, je vous en ai parlé. Iphigénie en Tauride, le comte d'Egmont, Torquato Tasso, il s'intéressait aussi pour parler à l'Italie. Hermann et Dorothée, c'est un poème qui est très joli. Hein. Les Affinités électives, qui est un roman et qui a été porté au cinéma par les frères Taviani. Puis il a écrit aussi, outre le journal de son voyage en Italie, un autre journal, c'est La Campagne de France. Je ne sais pas si vous connaissez. Et puis ensuite, je vous dirais, sur la fin de ses jours, il a écrit L'Élégie de Marienbad. Il y en a beaucoup d'autres, hein, une liste longue comme ça. Mais outre ses écrits, Goethe était féru de tous les arts. C'est un esprit extraordinaire. L'architecture, il a écrit de l'architecture allemande. Il s'intéressait surtout, enfin, je reviendrai là-dessus d'ailleurs. La peinture, il a fait un traité sur les couleurs. La sculpture, la botanique, la géologie, l'anatomie, le dessin, parce qu'on le verra souvent dessiné en Italie. Et Goethe était aussi polyglotte. Et le polyglotte, alors le français, l'italien, je ne sais pas s'il connaissait l'anglais, mais sûrement. Puis ça a commencé par l'hébreu, le grec et l'italien, alors, et le latin. Un homme aussi complet que Goethe avait certainement reçu une éducation exceptionnelle. Alors je vous montre, on va commencer par sa naissance, sa maison natale à Francfort. Francfort sur le Main, hein, pas sur le Der. Où il est né en 1749. Enfin, pour retenir à la moitié du siècle, 1749-50. À cette époque, existe encore le Saint-Empire romain germanique, qui va exister jusqu'en 1806, je pense, qui va tomber sous le coup de Napoléon. Et le jeune Johann Wolfgang Goethe, ses deux prénoms, c'est Johann Wolfgang, j'y reviendrai, a assisté en 1764, il devait avoir 15 ans par conséquent, à l'élection du futur empereur Joseph II. Le père de Goethe avait les premières places. Hein. Son père était conseiller d'empire et son grand-père était bourgmestre de la ville. Et une année plus tôt, c'était une ville très fréquentée, Francfort, à l'âge de 14 ans, il écoutait dans sa ville un concert de clavecin donné par un enfant prodige que j'ai cité tout à l'heure, Mozart. Alors pour l'Italie maintenant, le père de notre Goethe junior, Johann Gaspar Goethe, avait lui-même effectué un voyage en Italie et il avait, je vais vous montrer tout de suite la date pour mieux situer les choses, Johann Caspar Goethe, hein, un voyage en Italie en 1740. Il rapporta beaucoup de souvenirs, dont une gondole en miniature qui a fait beaucoup rêver le futur écrivain et il publia son journal de voyage. On voit ici le journal de voyage, la première page, la page de couverture du journal de voyage de Johann Caspar Goethe, voyage en Italie, dans l'année 1740. Et du coup, on a la famille Goethe. Hein. On a, le père et la mère, et puis on a la Goethe junior, et sa sœur, il avait une sœur qu'il aimait beaucoup, Cornelia, et qui est décédée assez prématurément. La religion de sa famille et aussi de ses lieux d'études, Leipzig ou Strasbourg, inspira beaucoup de ses commentaires de voyage en Italie. C'était celle d'eux, mais vous l'avez vu déjà. Bon, là vous reconnaissez Luther peint par Cranach. À l'époque, l'Allemagne était très morcelée. Elle était morcelée en près de 300 États, voyez ça. Des États minuscules, des duchés, des tout petits duchés, des principautés héréditaires, des villes autonomes. Je vous en montre la carte de 1812. Si je vous montre celle-là, c'est parce que on voit bien les couleurs. Et puis peut-être pour qu'il y ait moins d'États, parce que déjà, sous les coups de l'Empire français, l'Allemagne s'était réduite et avait mangé une certaine partie de ses petits États. Le père de Goethe lui impose des études de droit, qu'il fait à Leipzig et qu'il poursuit ensuite à Strasbourg. Il va rester 3 semestres à Strasbourg. Ce séjour à Strasbourg est pour nous, Français, le plus intéressant, bien entendu. Voici une vue moderne de Strasbourg qui nous montre la rue du Vieux Marché. C'est la rue du fond, là. Hein. Et avec la maison, c'est celle-là, où a habité Goethe. Et qui nous montre surtout, évidemment, la cathédrale toute proche. Hein. À Strasbourg, Strasbourg était possession française à l'époque, déjà. Et Goethe rencontre le philosophe allemand Herder, qui s'y fait soigner les yeux. Un monsieur qui aura une assez grande influence sur Goethe à ses débuts. Alors, Goethe s'enthousiasme pour la cathédrale et son maître d'œuvre, Erwin von Steinbach. Et il écrira plus tard, comme je vous le disais, un traité d'architecture où il donne à l'Allemagne la paternité de l'art gothique. Vous savez, Goethe, c'était un patriote. Hein. Et il donne des exemples, hein, paraît-il. Je ne l'ai pas lu. Enfin, il y a quand même Cologne et Fribourg, en Breisgau, et je suppose d'autres. Goethe, alors là, est à Strasbourg, et on va découvrir une des particularités, ou des manies de Goethe, si vous voulez, il est toujours attiré par les sommets. Alors il ne manque pas une occasion de monter sur la flèche de la cathédrale. Sur le plan des lettres, Goethe, qui consacre vraiment le minimum de temps à ses études de droit, il s'intéressait à tout, même à l'alchimie. En tout cas, sur le plan littéraire, il reçoit l'influence de Herder. Et dans son cheminement, il abandonne le modèle du classicisme français et se convertit à Shakespeare, ce qui va inspirer ses drames, hein, plus ou moins. Mais surtout, surtout, il rencontre une belle Alsacienne, Frédéric Brion, de Sessenheim. Elle est belle, hein, elle est en costume alsacien. Le père de Frédéric était pasteur. Alors, une image qui va nous montrer, je vous prie, de Frédéric un moment. On va la voir dans sa famille. On voit ici toute la famille de Frédéric. Et on voit bien qu'elle a une sœur, et puis le papa qui reste assis, là, le pasteur, là, et Goethe qui pérore, comme d'habitude, au milieu. Enfin, ça, c'est... Les illustrations ne manquent pas de présenter Goethe en train de parler. Vous allez voir, ce sera, dans plus d'un quart, ce sera comme ça. Malheureusement, Goethe est trop jeune et il ne veut pas encore se marier. D'ailleurs, il attendra plusieurs dizaines d'années pour se marier. Il doit retourner à Francfort et commencer une carrière d'avocat, qu'il n'aimait pas. C'est la rupture. Goethe ne devait revoir Frédéric que 8 ans plus tard, et brièvement en plus. Il a l'air de ne pas descendre même de son cheval, vous voyez ça. Mais c'est un souvenir qui reste dans beaucoup de mémoires. Et qui a inspiré parmi les plus beaux poèmes de Goethe, des poèmes d'amour en tout cas, comme Mayfest par exemple, et beaucoup d'autres. Frédéric devait elle est morte célibataire, hein. Elle s'est retirée auprès de sa sœur, qui avait épousé un pasteur, dans le pays de Bade, et puis là où elle est enterrée. Ça fait partie du pèlerinage des Allemands quand ils visitent les lieux de Goethe en Allemagne, hein. Et il y en a, mais celui-là est remarquable. Il y a même une épitaphe à son tombeau que je ne peux pas vous lire maintenant, mais qui, on n'a pas le temps, mais qui est assez émouvante. Goethe, à cette époque, est très séduisant, comme on peut le voir ici. Alors, c'est une photo de l'époque, hein. Enfin une photo, un portrait. Et il doit lui ressembler, sans doute, un peu grand quand même. Alors, on va profiter de ce tableau pour faire un petit tour sentimental de notre personnage. Disons d'abord que ses relations sentimentales ne durent pas longtemps. Soit que l'élu est engagé par ailleurs, soit qu'il s'en détache lui-même. À peine sorti de l'adolescence, il s'était épris d'une vendeuse en confection appelée Marguerite, plus âgée que lui, mais qui était trop jeune, décidément. Et il n'a retenu de Marguerite que le prénom dont il s'est servi, comme vous le savez, dans Faust. Puis c'est aussi une Annette, appelée aussi Catherine, ou Kitchen, il y aura beaucoup de diminutifs, hein, la fille de sa logeuse à Leipzig, qui va se fiancer On pourrait peut-être la voir, cette Catherine, qui va se fiancer avec un autre. Alors Goethe ne se montre pas trop dépité et lui offre une Bible en cadeau de mariage, comme on le fait dans les familles protestantes d'alors. Puis, il y a une Lily. Voilà, Lily, c'est pas Lily Marlène, c'est Lily Schönmann. C'est la fille d'un banquier de Francfort. Il y avait déjà des banquiers en nombre à Francfort. Comme d'habitude, il lui dédie de beaux poèmes. Mais là, on va jusqu'aux fiançailles. Les parents sont dans le coup. Mais tous deux s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et ils cherchent une raison de rompre l'un et l'autre. Mais ils l'ont trouvé dans leur religion respective, parce que l'une est calviniste et l'autre est luthérien. Alors Lily va épouser Bernard Frédéric de Turckheim, qui nous est un peu connu, puisque ce sont les ancêtres de la comédienne Charlotte de Turckheim. Alors, on va... Ici, la dame suivante a un port très altier qui lui convient. C'est une comtesse, la comtesse Augusta zu Stolberg. Là, c'est encore un amour impossible. Mais là, c'est du fait de la dame, parce qu'elle serait secrètement éprise de Goethe, qui est le meilleur ami de son mari. Tous les trois font un long voyage en Suisse et au cours duquel aurait pris naissance cette amitié amoureuse entre guillemets, qui est un terme goethien, je pense, situation fréquente dans la vie de Goethe. Alors on va passer à Werther, l'héroïne qui a inspiré Werther, c'est Charlotte, une Charlotte Bouffe-Kestner, elle a épousé plus tard un Kestner, et c'est elle qui a inspiré l'œuvre de Werther, à Goethe, l'œuvre de Werther. Il était nommé avocat à Wetzlar, une petite ville au nord de Francfort. Et c'est là qu'il a fait la connaissance de Charlotte. Et comme prénom, comme diminutif, ben, c'est Lot. Alors, il a connu lors d'un bal, il s'en est tout de suite éperdument épris, mais il a compris seulement plus tard qu'elle était solidement promise à un autre. Puis le fiancé était absent, et puis et voilà qu'il revient. Et il s'appelle Albert, je pense, comme le héros de Werther. Alors, bon, 4 mois plus tard, il n'est pas resté longtemps en Wetzlar, il retourne à Francfort, et il devient, comme à son habitude, l'ami du couple. Il écrit régulièrement, mais il écrit pas à la femme, il écrit au mari, pour lui demander les nouvelles de sa femme. Voilà. Comme on voit, Goethe a mieux accepté la situation que son héros Werther, qui s'était suicidé. Le roman fut écrit en un mois. Il le fit paraître, il le présenta, à la fin du livre de Leipzig, et le roman eut tout de suite un énorme succès, qui a donné à Goethe à la fois richesse et notoriété, mais qui a inspiré aussi une imagerie pas toujours de bon goût. Immédiatement traduite dans toutes les langues, l'œuvre de Goethe entraîna une vague de suicides en Europe. Madame de Staël écrivait « Werther a causé plus de suicides que la plus belle femme du monde ». Avec Werther, le destin de Goethe allait basculer. Ému par la lecture de Werther, le duc et la duchesse de Saxe-Weimar, rencontrant Goethe, l'invitent à venir à Weimar, leur capitale. Capitale, c'est beaucoup dire. Où il deviendra rapidement ami et conseiller ministre du jeune duc. Le jeune duc n'avait que 18 ans. On voit ici, je pense que c'est le couple princier, là. Et puis Goethe est là, hein, sans doute. Mais qu'était-ce que l'état de Saxe-Weimar-Eisenach, parce qu'ils ont une possession supplémentaire à l'époque. Voici une carte qui nous montre l'étendue des possessions. Vous voyez ça? Là, c'est autant de Goethe, hein, celle-là. Mais on voit mieux les possessions, elles sont en rouge, bien entendu. Vous voyez, c'est très morcelé. Weimar n'était qu'une petite ville, bien plus petite que les métropoles voisines de Leipzig, alors que Leipzig est ici, c'est la Saxe, et Dresde, aussi en Saxe, évidemment. Mais grâce à la grande duchesse Amélie, mère du jeune duc, Weimar devenait un centre culturel très important. La présence de Goethe devait peu à peu en faire le foyer de la langue allemande, attirant les plus grands écrivains comme Schiller et Wieland. Goethe et Schiller ont correspondu, quand Schiller n'était pas à Weimar, mais je crois à Iéna, ils ont correspondu longuement, ils se connaissaient très très bien, ils s'appréciaient mutuellement beaucoup. En France, les plus grands hommages rendus à Weimar et à la littérature allemande de l'époque viennent de... Ah, vous l'avez reconnu, hein? C'est Madame de Staël. Madame de Staël, que Goethe a par la suite rencontré plusieurs fois. La première fois qu'il a vu Madame de Staël, il raconte ça, mais de la façon dont il le raconte, personnellement, j'ai compris qu'il n'a pas pu en placer une. La deuxième fois, il est très élogieux de Madame de Staël. Le livre de Madame de Staël, de l'Allemagne, on a du mal à se le procurer, hein. Je l'ai eu, mais difficilement, une édition assez mauvaise. Le livre de l'Allemagne, paru sous Bonaparte, fut interdit en France, vous savez. Et puis, ce qui avait été imprimé déjà a été passé au pinon, etc. Je sais pas. J'ai vu ce qu'on en avait, ce que la censure de l'époque en avait retiré. On est étonné parce que la censure retirait à l'époque. On ne s'attendait pas à ça. Très occupé par ses nouvelles fonctions et la fréquentation de la petite cour du Khan, Goethe trouve le temps de s'enthousiasmer pour l'art italien de la Renaissance. Il a vu à Dresde la collection achetée par Auguste III de Saxe et la Madone Sixtine, peinte par Raphaël. Oui, Auguste III, c'était dans le XVIIIe siècle, je crois, ou dans le XVIIe, il a racheté une partie de la collection, je crois que c'est des Farnèses, et une autre partie est allée à Georges, je ne dis pas le numéro, de Grande-Bretagne. Il paraît que la collection de Dresde est remarquable. Plus encore que la peinture, Goethe va s'exalter pour la sculpture et l'architecture grecque et romaine. Et c'est cet engouement qui va motiver son voyage en Italie. Il partage alors son enthousiasme avec un nouvel amour. Devinez, c'est une Charlotte encore. Charlotte von Stein. On le voit ici avec Charlotte von Stein. Et vous voyez aussi qu'il y a un enfant. Effectivement, je crois qu'elle avait deux enfants et elle avait aussi un mari. Bon, c'est très controversé. Des livres disent que c'était platonique. Le fait est qu'il a écrit beaucoup durant le voyage à Charlotte von Stein. Il faut comprendre que c'est à elle qu'il écrit d'ailleurs. Et comme c'est un journal qui a été repris après dans une édition décidée par Goethe lui-même, il se peut que ce soit des extraits. Et il envoie des cadeaux aux enfants, pour les enfants, des découpages, des choses comme ça. En outre, Charlotte a exigé que soit détruite une partie des lettres qu'il écrivait ou qu'elle écrivait. Finalement, mais on en a trouvé quelques-unes où quand même Goethe semble brûler d'un amour ardent et qui devait être réciproque. Charlotte von Stein est dame d'honneur de la duchesse. Elle a de la famille, comme je vous le disais. L'état réel de leur relation, je vous disais, il est confidentiel. Peut-être même que cette liaison est la cause du voyage dont je vais vous parler, peut-être. Alors maintenant, on entre dans le sujet voyage. Et je vous présente le voyage tel qu'il a été fait en Italie. Donc, entrée en Italie, arrivée au lac de Garde, Vérone, Venise, et puis il va vers Florence, enfin Bologne, Florence, il passe par Pérouse et Assise, et puis il est à Rome, il va se fixer à Rome un moment, et il va ensuite à Naples, et puis de Naples, il va aller en Sicile, qu'il va traverser jusqu'à Messine. Il va revenir à Naples, puis à Rome. Et à Rome, il va rester un moment. Et la relation du voyage se termine là. Parce que la suite, on ne la connaît pas. Mais on sait qu'il est revenu, qu'il est passé par Milan pour revenir. Et puis qu'il a, enfin, je vous dirai, ce qu'il a réparé à son retour, qu'il n'avait pas fait au départ. Peut-être sera-t-il intéressant de voir les dates du voyage. Il est parti de Karlsbad, je reviendrai là-dessus sur le lieu de départ. Hein. De Karlsbad le 3 septembre, je ne sais pas si on voit bien, 1786. Et puis là, il fonce à toute vitesse. aussi vite qu'il peut à l'époque. Et il fonce vers Rome. Il s'arrête quand même une quinzaine de jours à Venise. Ensuite, donc, il est à Rome le 1er novembre déjà. Donc, vous voyez, 2 mois après, il est à Rome. Et puis, il va y rester presque 3 mois. Ensuite, il va à Naples. Tout ça sont des passages assez rapides. En Sicile, il ne va pas rester bien longtemps non plus. Il revient à Rome en juin 1787. Et puis là, il va rester presque 2 ans à Rome, avant son retour. Et là, on a idée de son retour, puisqu'on voit les dates, Sienne, Florence, Bologne, Milan. Il a passé 5 jours à Milan, on aimerait bien savoir ce qu'il y a fait. Florence, c'est pareil, et ainsi de suite. Mais on n'a pas d'informations là-dessus. Alors, comment était l'Italie à l'époque ? L'Italie politique, elle est morcelée elle aussi, mais quand même moins que l'Allemagne. Hein. Alors les grands morceaux, c'est la République vénitienne, c'est la Savoie-Piémont, et c'est les États du Pape, et Naples-Sicile, sous les Bourbons. Alors on va peut-être voir une autre carte qui va nous montrer, alors c'est une carte en français, mais c'est seulement le voyage tel qu'il est décrit, dans le journal, mais on peut voir la position respective de Weimar et de Karlsbad. Et on voit qu'il y a Ratisbonne, Munich, Innsbruck, Bozens et Bolzano, et puis là, il a pénétré, le Brenner est là. Il est allé aussi vite que possible, et je vous dirai comment. Pourquoi Karlsbad ? Karlsbad d'abord, d'où il est parti. Pourquoi n'est-il pas parti de Weimar ? Comme le nom l'indique, Karlsbad, c'est le bain de Charles, c'est une ville d'eau la plus importante de Bohême. Elle porte maintenant le nom tchèque de Karlovy Vary, je ne sais pas si c'est le bon accent. Goethe s'y trouvait en train de prendre les eaux en même temps que le duc et son petit cercle d'amis, dont Charlotte von Stein. Et Goethe était à ce moment-là dans un étrange état d'esprit. Il avait besoin d'une coupure et d'un renouveau qui se matérialisait par une passion qu'il avait du retour à l'art antique et par l'appel du Sud, de sa chaleur, de ses couleurs. Il abandonna en secret la petite société qu'il fréquentait à Karlsbad et se dirigea, la nuit, aussi vite que possible, vers l'Italie. Il voyageait avec un minimum de bagages, sous une fausse identité. Dans les hôtels, il se faisait enregistrer sous le nom de Johann Philipp Müller de Leipzig. Et il ne fut que rarement reconnu. Il n'y avait pas de photos qui voyageaient à l'époque. Il allait entreprendre un voyage très difficile auquel ses voyages antérieurs ne l'avaient pas suffisamment préparé. Cependant, Goethe ne fait guère mention des difficultés rencontrées. On a l'impression qu'il s'en joue tout le temps. Il se joue des obstacles. Pour se faire transporter, ou pour faire acheminer le courrier, il y avait bien les relais de poste. Donc voici une carte de l'époque. Vous voyez que c'était dense. Hein. Donc, il y a des régions qui sont fortement desservies, et d'autres un peu moins. Et l'Italie, malheureusement, on n'en a qu'une partie. Tout en bas, elle paraît moins desservie, bien entendu. Et alors, on peut imaginer que vers le sud, ça devait être très difficile d'acheminer le courrier. Mais il avait ses trucs, je crois. Goethe était pressé, et il semble qu'il en avait les moyens pécuniers. Les voitures qu'il privilégiait étaient des voitures légères, individuelles, regroupant peu de passagers, qui opéraient sur commande. Dans les cas où cette solution n'existait pas, comme en Sicile, Goethe louait un cheval. Il lui est aussi arrivé de laisser le voiturier pour faire un parcours à pied, comme par exemple quand il est monté à Assise. En voyage, Goethe, pour se loger, ne pouvait compter que sur les auberges, bien loin en Italie, du confort qu'il trouvait d'habitude en Allemagne. De plus, on était en hiver, et les hôtels et les maisons étaient peu ou pas du tout chauffés. Mais c'était l'occasion de rencontres qu'il sut apprécier. C'est une image qui tente de représenter Goethe à table. dans une auberge qui est encore assez convenable. C'était pas toujours le cas. Hein. Les auberges des grandes villes pouvaient satisfaire un voyageur du Nord. Ça n'était pas le cas des petites villes. J'ai choisi cette image pour vous en donner une idée. Bon, ben, mais ça ne devait pas être loin de ce cabaret, cette auberge, les endroits où il devait aller dans des petites villes. Dès l'entrée en Italie, Goethe est stupéfait de la saleté des rues. Il n'était pas du tout habitué. Pour les commodités, quand dans une auberge, il demande où se satisfaire, on lui répond, bah, fori, dehors. Fori dove. Étonné, lui. Ou dehors. Dappertutto dove vuol. Partout où vous voulez. On ne dit pas ce qu'il a fait. Pour la nourriture, Goethe en parle peu, mais il est capable de se contenter de peu si nécessaire. Et ses repas dans les auberges pouvaient ressembler à ceux du mangeur peint par Annibal Carrache. À cause des nombreux états traversés, la grande difficulté était sans doute la police ou la douane, on va en parler, on le verra plus loin, ou bien les différentes monnaies. Voici par exemple une table de change des différentes pièces romaines. Il y a l'écu romain, le sequin romain, le quartini, il y a le Paul, ça doit être le Paolini ici, Paolino, le Carolin. Alors ce qui était très courant, c'est le bayoc. Ça ne devait pas valoir grand-chose, un bayoc romain. Et ça, c'est pour les pièces romaines. Mais chaque état avait sa monnaie. Hein. Curieusement, il n'est pas fait mention de brigandage. Mais indirectement, on apprend que Goethe voyageait avec deux petits pistolets. Une difficulté que Goethe ne s'attendait pas à rencontrer était celle de l'heure exacte, pour laquelle en Italie on se réglait seulement au son des cloches. Et pour celle-ci, la journée, pour les cloches, la journée ne commençait qu'à la clarté du jour, variable, comme vous le savez, selon les saisons. Alors pour s'en sortir, Goethe a créé un tableau de concordance personnelle que voici. Je ne vais pas m'attarder sur ce tableau, surtout qu'il est en allemand. Mais j'en ai une traduction française. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais la communiquer avec le mode d'emploi. Suivons maintenant Goethe dans son voyage. Une fois passé le Brenner, il rencontre sur la route un couple curieux formé d'un vieillard joueur de harpe et d'une toute jeune fille. Ah, c'est encore un dessin, c'est Friedrich. Friedrich est un dessinateur allemand du 19e, fin 19e, qui a beaucoup illustré Goethe. Et là, comme Goethe il raconte ce fait, Friedrich a voulu le représenter avec son éternel chapeau, bien sûr. Et ces personnages seront plus tard repris et adaptés dans Wilhelmmeister, la jeune fille qui devenait le personnage de Mignon. Arrivé au lac de Garde, Goethe voyage en barque de Riva à Malcesine. Bon, ça n'a pas été facile, il fallait ramer, il fallait trouver du vent, et le vent n'était pas toujours comme on le voulait, où il fallait ramer, mais à contre-courant, ça n'allait pas. Évidemment, il avait engagé tout un équipage. Intéressé par le château de Malcesine, il commence à le dessiner. Mais il ignore qu'il se trouve là, il était rentré en territoire vénitien. Et on le prend pour un espion. Heureusement, on trouve un habitant qui a travaillé à Francfort, déjà un travailleur émigré, qui demande des nouvelles de ses patrons, un banquier de Francfort, italien celui-là. Nouvelle que Goethe peut lui donner, bien qu'elle soit assez ancienne, ces nouvelles, mais l'Italien qu'on était allé chercher pour dépanner Goethe était très content de voir ces nouvelles, même si elles n'étaient pas récentes. La scène est décrite par Goethe avec beaucoup d'humour qu'a essayé de représenter le dessinateur ici. On voit Goethe qui pérore comme d'habitude, et puis on voit les gendarmes vénitiens qui se demande à quoi s'en tenir, les malheureux. Il y en a un qui compte sur ses doigts, d'ailleurs. Il compte peut-être l'heure, hein, comme il est là. À Vérone, Goethe visite avec enthousiasme sa première ruine, les arènes. Et il oublie superbement le reste. Ça n'intéresse pas, il n'y a que les arènes qui l'intéressent. Vicence, qui suit, recevrait de Goethe le même traitement que Vérone s'il n'y avait l'architecture de Palladio pour qui Goethe professe une admiration absolue. Voici la statue de Palladio à Vicence, que Goethe n'a pas manqué de voir. Alors Palladio était décédé lors du voyage de Goethe. Mais il a voulu rendre visite à Scamozzi. Comme vous le savez, Scamozzi a terminé plusieurs des palais de Palladio. Et on a créé beaucoup lui-même aussi. Et donc Goethe a pu rencontrer Scamozzi, dont voici le tableau peint par Véronèse. Goethe s'attendait à être reçu dans un palais par Scamozzi et était étonné, stupéfait de la modestie de l'habitation de Scamozzi, déçu peut-être. À Venise, Goethe se fixe une quinzaine de jours, ce qui normalement lui donnerait tout le temps de visiter les églises et tous les tableaux qu'il y a dans les églises, et les scuoles. Et pourtant, il ne parle que des théâtres et des œuvres de Palladio, le Rédempteur et San Giorgio, oui, Saint Georges. Tous les deux peints par Canaletto. Et c'est vrai que à l'époque, Venise avait beaucoup de théâtre. Hein. Et ça pouvait être passionnant pour un étranger comme lui, tout à fait nouveau en tout cas. Et Goethe, on est resté émerveillé. Il nous raconte, voici l'entrée d'un théâtre le soir, on y arrive de partout et en gondole aussi. Il nous raconte certaines des pièces qu'il a vues, de Gozzi ou de Goldoni. Ici, c'est la Bottega del Café de Goldoni. Il décrit, lui, Baro fa Chioggia. Et pour les tragédies, la participation du public le surprend et elle l'amuse. Surtout quand il arrive que le public requiert violemment des acteurs, un autre dénouement que celui c'est le père qui demande, il assiste à une scène où le père intime à son épouse au fils, l'ordre de tuer sa mère, c'est assez, alors là, le public ne peut pas supporter, et alors ça fait presque une émeute, là, aux yeux de Goethe en tout cas. Et alors, ça semblait pas préparé du tout. Et le jeune fils, il arrête tout. Et puis, il vient dire, il y a une autre fin. Et puis, il trouve une autre fin. Et le public est satisfait. J'aurais pas beaucoup le temps de vous parler des observations que fait Goethe, du petit peuple italien. Mais c'est souvent très intéressant. Les artisans, les camelots, on vit dehors, hein, à Venise et dans toutes les villes. Tout le monde est dans les rues, comme le permet le climat. Il est émerveillé de ça. Là, on a le vendeur de polenta. Enfin, il arrive à Rome, où il va rester presque 3 mois. Ah non, il n'est pas encore à Rome. Pardonnez-moi, je suis plus rapide que Goethe, ce qui n'est pas peu dire. Mais il se remet en route après son arrêt à Venise, mais il est pressé d'arriver à Rome, où il n'arrivera que 15 jours plus tard toutefois. Il s'arrête rarement. Il s'arrête un jour à Ferrare, prison du Tasse, un jour à Cento, la ville du Guerchin, ascension du clocher, 2 jours à Bologne, ascension de la tour penchée. À Florence, il ne reste que 3 heures. Il réparera au retour, mais on n'en sait rien. À Assise, il ignore totalement, mais totalement, les fresques de Giotto pour n'admirer que le fronton romain de l'église Santa Maria sopra Minerva. Enfin, il arrive à Rome. Voilà Rome, vue du pont Milvius, où il va rester presque 3 mois, dans l'appartement qu'il partage avec le peintre Tischbein, l'auteur du célèbre tableau qui le représente. Quand Goethe arrive à Rome, la ville ressemblait sans doute, malgré ses 150 000 habitants, à un grand village peuplé de ruines, au moins pour certaines parties. La Rome peuplée était celle des quartiers baroques, pour lesquels Goethe n'avait que du dédain. Seuls les vestiges antiques l'intéressaient. On voit ici le forum et le Colisée, vu des jardins farnèses. Le chef de l'Église, et en même temps de l'État romain, c'est le pape Pie VI. Depuis 1775, les Romains l'appelaient il Papa Bello, le beau pape. Et c'est celui qui a régné le plus longuement, dit-on. Parce qu'il est décédé en 1799, donc 24 ans de règne, prisonnier du directoire. Goethe est spectateur de plusieurs cérémonies religieuses officiées par lui. Est-ce à cause de la chapelle Sixtine, qu'il visitera plusieurs fois, mais Goethe se rend fréquemment à la basilique Saint-Pierre, bien que ce n'est pas entièrement son goût artistique, hein, où il va monter sur le toit, évidemment, sur le toit, avec Tischbein, d'où il jouit, dit-il, d'un paysage, on va mieux voir le toit d'ici, un paysage exceptionnel. Et plus tard, il fait le tour complet de la coupole, mais à l'intérieur, s'offrant le spectacle du pape tout petit, se rendant à l'autel. À Rome, Goethe demeure non loin de la Piazza del Popolo, exactement au numéro 18, Via del Corso. Donc voici une photo, celle-là, une photo de 1930. Cet immeuble, je pense que c'est... Bon, je ne le dis. Ils se ressemblent tous, hein. Je crois que c'est celui-là. Bon, c'est pas forcément important, mais si vous y allez, c'est remarquable, puisque c'est maintenant le siège d'un musée sur le séjour de Goethe à Rome. La Via del Corso va de la Piazza di Spagna à la Piazza Venezia. C'est le parcours du carnaval, dont je vous parlerai dans la deuxième partie. Non loin de la Piazza Venezia, on trouve la colonne Trajan, qui présente pour Goethe le double avantage d'un monument de l'Antiquité romaine, d'une ascension possible qui ne s'est pas fait attendre. Mais qui est cette dame? Eh bien non, ce n'est pas l'une des dulcinées de Goethe, mais c'est une grande amie quand même. C'est Angelika Kaufmann, c'est une femme peintre, c'est pas une égérie. Une femme peintre qui vit à Rome. Elle est, comme Goethe, éprise de l'art antique. Elle est originaire de Suisse allemande, elle a vécu en Angleterre. Son mari est un peintre vénutiste, il s'appelle Zucchi. Il est vénitien, son mari. Et on a d'elle quelques tableaux, enfin je les cite, parce qu'ils représentent Goethe à l'époque. Premier tableau. Bon, il n'aimait pas beaucoup ce tableau-là. Alors c'est peut-être pour ça qu'on en a fait un autre, qui a dû le satisfaire, parce que on voit son buste parmi les muses. Goethe et Angelika sont fascinés par l'art antique en général et par une méduse qui est présentée au palais Rondanini en face de l'immeuble de Goethe. Et ce dernier en parle fréquemment dans son journal comme d'une idée fixe. Elle est quand même belle. Dans son exil, Goethe, et c'est ça qui est formidable, il trouve encore le temps de correspondre avec son éditeur, avec ses amis, restés là-bas, parce que il a fini par cacher son exil quand même, concernant les travaux qu'il a en cours, et de poursuivre ses travaux. Et toutes les pièces qu'il avait en cours, il mettait du temps, il reprenait son ouvrage. Il a aussi un projet de drame poétique sur Nausicaa, qu'il remet sans cesse. Les titres de ses ouvrages en cours apparaissent souvent dans sa correspondance, comme Iphigénie en Tauride, ou Egmont ou le Tasse. Ici, pour vous en donner une idée, voici une scène du comte Egmont. Mais Goethe est toujours avide à la fois de l'art des anciens et du midi. il va quitter son refuge douillet de Rome pour descendre vers Naples. Une belle vue de Naples à l'époque. Hein. Il va passer en tout près de 6 semaines à Naples, dans un séjour interrompu par une incursion en Sicile. Il n'ira pas seul en Sicile, mais accompagné d'un peintre dessinateur qu'il engage à Naples et qui remplace Tischbein durant ce voyage. Je vous en parle aussi parce que il n'y avait pas de photographie à l'époque, et pour souligner qu'il y avait un gros besoin de reproduction et que Goethe demandait à ce compagnon de voyage qui s'appelle Kniep, on va le voir, de dessiner, et Kniep dessinait sans cesse. On voit ici Kniep. Il a l'air un peu myope, ça doit le gêner pour dessiner, mais enfin non, c'est une impression. Il a de très beaux dessins. Hein. On voit ici Paestum, dessiné par Kniep. Ils sont allés 2 fois à Paestum. Paestum dans l'état de l'époque. Hein. La ville de Naples présente à l'homme du Nord, qui est Goethe, ses aspects les plus dégradés. Je vais donner une petite image comme ça pour vous en faire une idée. Quoi. L'hôtel qui est la Locanda, Morocini, Locanda, est médiocre et non chauffé. Et pour la première fois, Goethe se dit malade. Mais il se rend quand même à l'invitation de Sir Hamilton, ambassadeur de Grande-Bretagne. Alors, je vous montre Sir Hamilton pour arriver par degrés à son épouse, parce qu'il est bien connu de l'histoire pour son épouse, la célèbre Lady Hamilton, qui devint plus tard la maîtresse de Nelson. Quand Goethe la rencontre, elle n'a que 20 ans, et elle lui a fait évidemment une très forte impression. Lors de sa deuxième visite, anecdote, Sir Hamilton présente discrètement à Goethe les souvenirs qu'il a rassemblés pour sa collection personnelle des ruines de Pompéi, et qui sont sans doute des achats illicites, ou même pire, selon Goethe. Et Goethe sera plus tard bien prêt de faire la même chose. Bien entendu, Goethe visite Pompéi et Herculanum, dont les fouilles avaient commencé en 1748, sous le règne de Charles III, roi de Naples, dynastie des Bourbons. Vous voyez, les Bourbons, quand même, ils avaient commencé des choses à Naples. Hein. Mais plus tard, ils ont fait le chemin de fer, d'ailleurs. Il est étonné de l'exiguïté de la ville, je parle de Pompéi, Herculanum, c'est plus petit encore, et de sa distance, sa relative distance, l'éloignement, faut-il dire, du Vésuve. Quant à ce qu'il voit, les peintures sont charmantes, dit-il, c'est tout ce qu'il en dit. Alors, on va arriver à autre chose. Je vais quand même vous lire un peu du Goethe, parce qu'on arrive au Vésuve. Vésuve. C'est haut, c'est singulier, il y a des roches à retrouver. Pour Goethe, c'était irrésistible. Il y est allé 3 fois. Le 2 mars, pour mieux illustrer ça, je pense que je vais vous passer à la vue suivante. Je suis monté sur le Vésuve, quoique le temps fût nébuleux et la cime enveloppée de nuages. Je suis allé jusqu'à Resina, petite ville, en voiture, puis prenant à travers les vignes, j'ai gravi la montagne, d'abord à dos de mulet, enfin à pied, sur la lave de 1771, qui avait déjà produit une mousse fine, mais consistante. Plus haut, l'on côtoie la lave. J'ai laissé à gauche, sur la hauteur, la cabane de l'ermite. Il y avait un ermite là. Plus avant, il faut gravir la montagne de cendres, ce qui est un rude travail. Enfin, nous avons atteint l'ancien cratère, aujourd'hui comblé. Nous avons trouvé les nouvelles laves, qui ont 2 mois et demi, et même une faible couche, qui au bout de 5 jours, est déjà refroidie. Nous l'avons franchie en côtoyant une colline volcanique récemment formée. Elle fumait de toutes parts. La fumée s'éloignait de nous, et je voulus monter au cratère, bien sûr. Nous avions fait environ 50 pas dans la vapeur, quand elle est devenue si épaisse que je pouvais à peine voir mes souliers. Il ne servait à rien de tenir sous le nez son mouchoir, de poche à cause de la vapeur sans doute. Je ne voyais même plus mon guide. Ça, c'est gênant. Le pied n'étant pas ferme sur les débris de lave rejetés par le volcan, il me parut convenable de revenir sur mes pas. C'est rare, hein ? Mais vous en faites pas, il est retourné. On était au 2 mars, le 5 mars. Non, c'est le 6 mars. Alors là, il a entraîné Tichbein. Tichbein a surmonté sa répugnance pour me tenir fidèlement compagnie, et il est monté aujourd'hui avec moi sur le Vésuve. Nous sommes partis dans deux calèches, ne nous sentant pas en état de nous démêler au milieu du tumulte de la ville. Ouais, alors là, je vous décris le tumulte de la ville. Si nous conduisions, nous ne nous sentions pas... oui, il a les calèches parce qu'il ne se sentait pas capable de se démêler, dit-il, au milieu de la ville, s'il devait conduire lui-même les chevaux. Le clocher ne cessait de crier « Place, place !» afin que les ânes qui portent du bois ou des ordures, les calèches roulant dans l'autre sens, les hommes qui se traînent sous un fardeau ou qui se promènent, les enfants, les vieillards, se tiennent sur leur garde et se rangent de côté et que l'on puisse sans obstacle continuer le grand trot. Le chemin à travers les derniers faubourgs et les jardins avait déjà quelque chose de plutonien. Comme il n'a pas plu depuis longtemps, les feuilles, toujours vertes par nature, étaient couvertes d'une épaisse poussière cendrée. Les toits, les corniches, tout ce qui se présentait une surface plane, avait même passé au gris, si bien que le ciel d'un bleu magnifique et le soleil qui nous dardait de sa puissante lumière témoignaient seuls que l'on cheminait encore parmi les vivants. Nous fûmes reçus au pied de la pente escarpée par deux guides, l'un d'âge mûr, l'autre jeune, tous deux robustes. Heureusement, vous allez voir. Le premier me traîna, le second traîna Tichbein en haut de la montagne. Je dis qu'il nous traînait. En effet, le guide se passe autour de la ceinture une courroie que le voyageur saisit et tiré en amont, il gravit la pente avec bien plus de facilité en s'aidant d'un bâton. On l'imagine. C'est ainsi que nous avons atteint le plateau sur lequel s'élève le cône, au nord, sur les ruines du Monte Somma. Alors, je passe un peu. Nous fîmes le tour du cône, toujours fumant et vomissant de la cendre des pierres. Et nous trouvâmes ce spectacle grand et sublime. D'abord un puissant tonnerre qui retentissait du fond de l'abîme, puis des pierres, grandes et petites, lancées dans l'air par milliers, enveloppées de nuages de cendres. La plus grande partie retombait dans l'abîme, heureusement. Les autres fragments, poussés de côté, se déversaient sur la partie extérieure du cône et faisaient un vacarme étrange. D'abord, les plus pesantes tombaient lourdement et sautaient avec un bruit sourd jusqu'au bas du cône. Les plus petites crépitaient par derrière. Enfin, la cendre pleuvait. Tout cela se succédait à intervalles réguliers que nous pouvions très bien mesurer en comptant tranquillement. Il gardait sa montre. Alors, mais entre le Monte Somma et le cône, l'espace devient assez étroit. Déjà, les pierres tombaient en nombre autour de nous et rendaient inquiétante la marche autour du cône. Tichbein se sentait encore plus mal à l'aise sur la montagne depuis que le monstre, non content d'être horrible, voulait encore être dangereux. Mais comme la présence du danger a quelque chose de séduisant et excite l'homme à le braver par esprit de contradiction, je réfléchis qu'on devait pouvoir, dans l'intervalle entre deux éruptions, gravir le cône, arriver au cratère et revenir. Je délibérais là-dessus avec nos guides, sous un rocher surplombant du Monte Somma, où, campés en sûreté, nous réparions nos forces avec les provisions que nous avions apportées. Le plus jeune se fit fort d'affronter avec moi l'aventure. Nous rembourrâmes nos chapeaux avec des mouchoirs de toile et de soie, et nous nous tîmes prêts, bâton à la main, et moi saisissant la courroie. Les petites pierres craquetaient encore autour de nous, la cendre ruisselait encore, quand le robuste jeune homme m'enleva au-dessus de l'éboulis brûlant. Nous étions au bord de la gueule énorme, dont la fumée était écartée de nous par un vent léger, mais en même temps nous voilait l'intérieur du gouffre, malheureusement, qui fumait alentour par mille fissures. Bref, il n'a pas tout à fait vu ce qu'il voulait, et il a été obligé de revenir. Accueilli et grondé par Tischbein de la manière la plus amicale, restauré enfin, je pus donner aux laves, anciennes et nouvelles, une attention particulière. Le vieux Gilles savait indiquer les années exactement. Ça, ça intéressait beaucoup Gilles. Bon, c'était fini pour le Vésuve. Mais, le 20 mars, la nouvelle qu'un torrent de lave, invisible pour Naples, venait de faire éruption et rouler vers Ottaviano, m'a décidé à visiter le Vésuve pour la troisième fois. Bon, là, il y va aussi vite que possible. Et là, Tischbein, personne ne l'accompagne, hein, avec sa voiture à deux roues, tirée par un cheval, et puis il se dépêche. Hein. Quand nous fûmes en haut, le vieux resta en place avec les manteaux et les vivres. Le jeune me suivit, le précédent plutôt, je pense, et nous montâmes hardiment au-devant d'une valeur prodigieuse. Sous un ciel clair, la lave ruisselait hors de l'affreux nuage de vapeur. Le courant de lave avait au plus 10 pieds de large. Mais tout en coulant, la lave se refroidit sur les côtés et à la surface, elle forme un canal qui s'élève sans cesse. Ainsi s'élève insensiblement une digue sur laquelle la matière embrasée continue de couler doucement comme dans le bief d'un moulin. Je désirais approcher du point où la lave jaillit de la montagne. Mon guide assurait qu'elle s'y formait tout de suite une voûte et un toit sur lequel il s'était souvent tenu, c'est tentant. Nous remontâmes la montagne afin d'arriver à ce point par derrière. Et nous arrivâmes enfin sur la voûte dure, roulée comme de la bouillie, mais elle s'étendait si loin en avant qu'elle nous empêchait de voir sortir la lave. Nous essayâmes de faire encore une vingtaine de pas, mais le sol devenait toujours plus brûlant. Une vapeur insupportable, étouffante, qui obscurcissait le soleil, tourbillonnait. Le guide, qui me précédait, se tourna bientôt, me saisit, et nous nous arrachâmes à ce bouillonnement infernal. Après que la vue eut réjoui nos yeux et un coup de vin notre gosier, nous parcourûmes la montagne pour observer d'autres particularités de ce sommet, etc. Il a observé quelques ouvertures des véritables cheminées du volcan, et puis il rentre. Et quelques réflexions en rentrant, parce qu'il aperçoit le plus formidable coucher de soleil, une soirée divine m'ont réconforté au retour. Cependant, j'ai pu sentir combien un prodigieux contraste est propre à troubler les sens. Le passage de l'effroyable au beau, du beau à l'effroyable, les annule. Tous deux annulent l'effroyable et le beau et produit la différence. Le Napolitain serait certainement un autre homme qu'il est s'il ne se sentait pressé entre Dieu et Satan. Ça, c'est Goethe. Hein. Bon, alors, il fallait que je vous lise un peu de texte. Je pense que dans la prochaine partie, je pourrai vous en lire plus. Alors, on va aller à Naples, en Sicile maintenant. Goethe et Knieb quittent Naples pour la Sicile. Goethe a le mal de mer. Ça, par contre, il n'y passe pas à côté, hein. Il doit rester dans sa cabine. À Naples, Goethe reste 2 semaines. Il y est entré par la porte Sainte-Rosalie. C'est, dit-il, une porte admirable, composée de 2 énormes piliers, et qui ne doit pas être fermée par-dessus, afin que dans la célèbre fête de Sainte-Rosalie, son char, haut comme une tour, puisse la franchir. Goethe passe des heures infiniment agréables dans le jardin public. C'est l'endroit le plus merveilleux du monde, et c'est appelé maintenant le jardin botanique de Palerme. Donc voici l'entrée. Le jardin se trouve sur la rade, et l'odeur de la mer vaporeuse lui rappelle un passage de l'Odyssée. Et il court en acheter une édition afin de traduire ce passage pour Knieb. C'est typique de Goethe. Cette édition, d'ailleurs, elle est conservée dans le musée Goethe comme un tas de souvenirs. On apporte à Goethe une invitation à dîner du vice-roi dans son palais. Goethe s'y rend aussitôt sans prêter la moindre attention au palais lui-même. C'est celui-là, le palais. C'est le palais des Normands, où se trouve la chapelle palatine, bien sûr. On dirait que ça n'intéresse pas. Il y rencontre un chevalier de Malte, qui, sans l'avoir reconnu, lui demande des nouvelles de Weimar et du jeune homme auteur de Werther, qui, dit-il, y faisait la pluie et le beau temps. Mais cette personne, dit Goethe, c'est moi-même. Fasciné et dégoûté à la fois par les monstres de la Villa Palagonia, il a décrit tout de même en long et en large dans son ouvrage, sans oublier les monstres dont il dit c'est vraiment la limite de la folie. Enfin, Goethe et Knieb se mettent en route pour l'intérieur de la Sicile, visitant d'abord Segesta, dont voici le site. Très isolé, Segesta. Hein. Mais donc ils ont dormi plus loin, à Alcamo, et de façon surprenante, ils étaient très bien logés. On poursuit pour Agrigente, où on visite tous les temples de la vallée des temples. Voici le temple d'Héra, pour vous en donner une idée. Il n'y a pas d'hôtel à Agrigente. Et le guide qu'ils ont, est un ecclésiastique. Il accompagne, sans doute les ecclésiastiques doivent se faire un peu de... Ils ne sont pas toujours bien payés. En tout cas, c'est lui qui accompagnait, un très bon guide d'ailleurs, les deux voyageurs, en cheval, évidemment. J'en parlerai plus tard. Alors, ce guide leur trouve du logement chez l'habitant, où ils dorment dans une alcôve séparée par un rideau de la famille. Et Goethe profite de ce séjour pour assister à la confection des pâtes, faites, lui dit-on, avec le grano forte, le blé dur de la Sicile. Ça, il a beaucoup apprécié. D'Agrigente, on poursuit vers Catane, à travers la Sicile, le grenier à blé de la Rome antique. Le moyen de transport n'est pas la voiture, ça c'est une voiture de parade, mais à cheval, comme ceci. Ça, c'est une vue récente, mais que j'ai choisie parce que, qu'est-ce qu'on voit dans le fond ? L'Etna. Les velléités de Goethe de faire l'ascension de l'Etna sont difficilement calmées par le guide ecclésiastique, car la saison ne le permet pas, l'Etna est complètement enneigé. L'habitat et la nourriture des voyageurs laissaient toujours, tout au fur et à mesure qu'on avançait, plus à désirer. Goethe, devant une fois, disputait son matelas à l'hôtelier lui-même. Il dit qu'il le retire dessous l'hôtelier. Il se console en remarquant la très grande fertilité de la région pour toutes les cultures et surtout le blé. Il en parle beaucoup. Et il y a du blé partout, apparemment, entre Agrigente et Catane. C'était vraiment... Enfin, peut-être... Et ça me surprend. De même que la remarque le grenier de Rome, j'ai cherché un peu la production de blé de la Sicile et j'ai lu que la Sicile n'arrivait même plus à couvrir ses propres besoins avec sa production de blé. Alors je me suis dit, c'est normal, hein, la mondialisation et tout. Mais j'ai regardé ensuite la date, c'était un extrait de la Revue des Deux Mondes de 1884. On est surpris. À Catane, il est de nouveau question de l'Etna. Goethe demandant encore comment accéder au sommet. Il se contente finalement de monter à cheval au Monte Rosso et d'y observer l'ancienne lave de la grande éruption de 1669. C'était pas sans danger, en effet. Et en 1669, c'était... Cette image nous montre la lave qui descend dans la mer et la ville de Catane qui allait être submergée en bonne partie. C'était assez ancien l'éruption pour Catane, mais à Messine, Le désastre est plus récent. Le voyage se poursuit pour Messine, d'où il est convenu d'embarquer pour Naples. Mais la ville a été détruite seulement 4 ans auparavant par un terrible tremblement de terre qui avait fait 12 000 victimes et 30 000 sans-abri. On connaît hein, une image de l'époque qui nous présente le désastre. Goethe demande à visiter l'un des abris provisoires qui abrite la population. Puis il se met à la recherche d'un bateau en partance, un bateau qui devrait porter pavillon blanc. Pourquoi ? C'est que c'est le pavillon de France, et on lui a dit que les pirates sarrasins respectaient mieux le pavillon français, qu'ils le craignaient sans doute. Ah ben, il a trouvé un embarquement, et on s'embarque. Et à traverser, l'allée, il n'y avait pas eu beaucoup de vent. Mais au retour, ça paraît se dérouler normalement. On arrive assez rapidement. Mais Goethe éprouve son mal de mer habituel. Quant au moment d'entrer dans le golfe de Naples, le vent vint à manquer et on se sentit irrésistiblement renvoyé vers l'île de Capri et ses rochers. Près du rivage, on voyait les lueurs des bergers et ceux qui comprenaient leur langage, une petite image pour nous mettre dans le bain, ceux qui comprenaient leur langage traduisaient qu'ils ne calculaient, ils ne parlaient pas italien, hein, donc il y avait des Italiens qui traduisaient ce que disaient les bergers, traduisaient qu'ils ne calculaient déjà l'importance du butin à espérer d'un si bon naufrage. L'affolement devenait général quand Goethe, s'adressant aux femmes, leur dit de laisser les marins faire leur travail et de se contenter de prier la mère de Dieu. Sur ce, pris à nouveau de mal de mer, il se retire dans sa cabine, où plus tard, dans un demi-sommeil, il perçoit le bruit des cordages qu'on traîne sur le pont. C'était signe d'un retour de la brise qui permit enfin d'arriver au port. Et pour nous, on arrive à la fin de cette première partie. Ainsi Goethe, j'ai pas terminé quand même, parce que je dois vous annoncer, ainsi Goethe arrivait de nouveau à Naples. Il devait y rester 2 semaines avant de retrouver Rome, où il resta encore près de 11 mois. Le sens, la signification de son voyage allait s'y trouver changé, comme le journal qu'il publia. Cette deuxième partie, voulue par Goethe, fera l'objet d'une deuxième conférence en avril prochain. Ce voyage en Italie des années 86-88 ne fut pas le seul qui fit Goethe. Il en fit un deuxième à Venise, sur lequel on a des informations et des écrits. Je pourrais vous en parler. Il publia aussi une suite de poèmes inspirés par Rome. Et en avril, je vous en parlerai. Et les femmes, me direz-vous, Goethe, qui semblait s'éprendre d'une nouvelle femme à chaque changement de résidence, n'a-t-il pas connu de belles italiennes en Italie ? On n'en parle guère dans ce journal, il faut chercher. Il y en eut. Et je vous parlerai aussi, en avril, des mystérieuses italiennes. Merci, votre.
Est-ce que c'est une surprise ?
Est-ce que ça fut une surprise pour vous, ce voyage de Goethe ?
Son flegme et ce côté scientifique, on sent qu'il veut arriver à connaître. C'est pas un être insensible, il a peur,
il est extrêmement aventureux. Il est vraiment beaucoup de choses à la fois. Parce qu'il s'intéressait à tout, à tout. Et c'est curieux pour un poète. Vraiment, je vous engage à lire ces poèmes, ils sont magnifiques. C'est vraiment un très grand auteur, qui est malheureusement trop peu connu en France, hein, il faut bien le dire. Et je n'ai pu vous en donner qu'un aperçu, hein, je ne pouvais pas en dire plus, il s'agissait du voyage. Le voyage lui-même, vous en parlerez un peu. De la façon dont il a été publié, vous en parlerez aussi après.
Bref, il a été décidé de faire une deuxième conférence. Alors, je vous demande au moins le 14.